Nous allons maintenant entrer au cœur de cette programmation et j'aimerais pour commencer que vous nous disiez quelques mots sur cette soirée du 20 juin où nous allons pouvoir assister à Histoire de Danse qui va réunir ici à l'Agora Cité Internationale de la Danse. Alors Babix, Benjamin Chaval, Dimitri Chamblas, Zoé Lacnati, les Carnets Bagoué, vous, Jeanne, Mathilde Monnier, Laurent Pichot, Fabrice Ramalingan, Christian Rizzo, Cathy Olive, Salia Sanou, Ofèche et la participation des élèves de la Cité des Arts.
Ouais,
ok, racontez-nous ça.
Bah, en effet, c'est une espèce de palimpseste de cette mémoire du lieu. Moi, j'étais très marquée finalement en arrivant dans ce lieu, et c'est aussi la présence de Jeanne et d'Ofèche. Cette ville, c'est une ville d'auteurs. Il y a d'autres lieux où c'est des villes de programmateurs ou de projets. Là, c'est une ville d'auteurs. Et on ressent cet imaginaire. Et en fait, c'est ça qui moi, me donne une grande sensibilité à ce lieu. On ressent que c'est un lieu habité avant tout par des imaginaires et des artistes. Et donc, je trouvais que c'était extrêmement important que l'entremêlement de ces différentes périodes, avec Bagoué en particulier, Monnier, Rizzo, et aujourd'hui, c'est une façon de parler de diversité, parce que c'est des démarches très différentes, et en même temps de parler de cet engagement, chacun à sa façon, dans la danse. Et y a ce lieu, il a une mythologie qui n'est pas assez connue, je pense, qui est la dispersion des cendres, par exemple, de Merce Cunningham dans la cour de l'Agora. Beaucoup de gens, y compris des journalistes, ne le savent pas. Des moments très historiques entre Georges Frêche et Dominique Bagoué pour décider que ce lieu soit dédié à la danse. Une œuvre de Yann Fabre. C'est incroyable. Et donc, il faut que les gens ils soient complètement submergés par cette sensibilité d'un lieu. Et voilà. Et donc, on fait ça un peu 10 minutes chacun, comme un collage.
Un kaléidoscope.
Une mosaïque avec tout ce monde, et la présence des amateurs était très importante avec Zoé Lacnati et Chamblas parce qu'ils font partie de l'Agora, c'est-à-dire que c'est tout ça qui va donner vie.
Pierre, j'ai aussi la sensation que c'est un signal fort d'un désir d'ouverture, en fait.
Mais oui.
Que les publics vont rentrer dans des lieux qu'ils n'ont jamais vus de Montpellier Danse, et ça semble aussi un appel sur ce projet dont vous avez parlé tout de suite, c'est-à-dire ouvrir la cour, Jean-Paul Montanari.
Oui, mais ça rejoint ce qu'on se disait en préambule, c'est-à-dire ouvrir tous les espaces, donner la possibilité d'abord déjà aux spectateurs et aux habitants de Montpellier de découvrir le lieu, de découvrir les multiples espaces, parce que c'est un lieu très, très vaste, très important, avec beaucoup de studios, beaucoup d'espaces pour travailler, et de se dire, voilà, en fait, ici c'est chez vous, allez-y, promenez-vous, regardez, observez, installez-vous, prenez le temps.
Alors je ne vais pas tous les citer parce qu'après ça fait des interviews un peu indigestes à écouter, mais de Armin Hokmi jusqu'à Serge Aimé Koulibaly, d'accord, il y a quelque chose comme un axe très fort qui serait un peu le pouls de mondial de la danse contemporaine, une sorte de cartographie. Comment vous l'avez pensé, cet axe-là?
En effet, c'est, de toute façon, c'est la mission d'un festival de création. Et cette diversité nous aide à montrer, en effet, l'état du monde chorégraphique et de la création, aussi bien en Afrique, en Iran, avec tous ces artistes du monde entier. Et ça s'entrechoque, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ça s'entrechoque aussi dans le positionnement esthétique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'artistes aujourd'hui qui choisissent une grande forme d'abstraction, même d'aridité, en se disant le monde est fou et on va se concentrer sur notre spécificité, c'est-à-dire un rapport au corps extrêmement intériorisé, presque minimaliste, parce que c'est ça qu'on peut amener. On amène une sensibilité qui peut-être peut réparer quelque chose de ce qu'on ressent du monde, et c'est la force des artistes. Et d'autres, au contraire, qui se cognent à la politique, comme Olga de Soto, par exemple. C'est pour ça que Olga, c'était très important qu'elle soit là. Je trouve que c'est l'œuvre la plus politique du XXe siècle, avec évidemment la table verte de Curtius, et de montrer tout ce nuancier entre prendre le pouls du monde directement ou uniquement par une sensibilité esthétique ou prendre le pouls du monde en commentant les difficultés politiques, actuelles, géopolitiques qu'on connaît et beaucoup d'autres sujets identitaires, on les connaît aussi, qui sont présents. Donc c'est ça notre rôle en fait, tout simplement.
Je pense aussi qu'on vit une époque historique très très singulière. Très, très, très unique. Je pense qu'on l'a connu tout au long du XXe siècle quand on fréquentait les grands festivals, que ce soit les disciplines de danse, de théâtre, où on nous présentait des cultures du monde. On nous présentait le théâtre, la danse d'Asie ou d'ailleurs. Aujourd'hui, on est dans un monde totalement globalisé. Il ne s'agit plus tellement de présenter les cultures de tel ou tel pays ou de telle contrée parce qu'on y a tous accès, en fait, aujourd'hui. On y a tous accès grâce à Internet, les télévisions, les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, l'état du monde, c'est une espèce de grand syncrétisme où tout se mélange et tout s'influence l'une l'autre. Et aujourd'hui, on n'est plus dans un débat d'ailleurs esthétique, de chapelle, où voilà, on a connu hein, les époques de la danse, de la non-danse, etc., etc. Aujourd'hui, il ne s'agit plus du tout de ça. Il s'agit d'observer et de voir comment tout ça communique, tout ça s'influence les unes les autres, tout ça s'apporte les unes les autres. Et ça, c'est une écriture très particulière qui est en train de se réaliser sous nos yeux, quoi.
Dans les événements gratuits, on trouve les grandes leçons de danse. Ça, les publics y étaient habitués, comme dans les éditions précédentes. Une exposition de Christian Rizzo et Cathy Olive, Kader Atou, Jeanne avec In Situ, Oufèche aussi. Une rencontre avec Alain Damasio, ok. Et peut-être, je me suis dit, tiens, il y a une pointe quand même qui doit être apportée par Jeanne Gallois et Oufèche. C'est ce rendez-vous avec Mazel Fretten.
Complètement.
Où là, tout Montpellier va danser, quoi. Ça va danser du Pérou jusqu'à... Enfin, partout, quoi.
Eh ben, on espère que tout Montpellier sera au rendez-vous. Oui, oui, donc sur l'esplanade de la Place de l'Europe. Pardon, je ne sais pas si on dit l'esplanade. Place de l'Europe, tout court. Mazel Fretten, c'est un peu le duo incontournable aujourd'hui dans les danses électro actuelles et en même temps très modernes. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment aussi une écriture, une proposition, une mise en scène qui est solide sur scène. Voilà, c'est, je pense, c'est une des propositions qui peut vraiment aussi aller chercher un public qui a peut-être pas l'habitude de venir au festival Montpellier Danse, qui sont un public plus jeune, plus voilà, plus dans des esthétiques un peu actuelles, quoi, tout simplement. Et puis le concert avec Hervé, c'est un grand moment, c'est une énergie explosive, c'est enfin au domaine d'eau, ça va être monumental, je pense. Donc on peut.
Parce que aussi, ce qui est important, c'est de se rapprocher. Comment se rapprocher de la pop culture ? Ça, c'est extrêmement important. Et là, de la musique pour ouvrir le public. En fait, c'est un peu ça aussi qu'on lance, on pourrait dire, par exemple à 7, où ben, on va vers d'autres gens, d'autres espaces, d'autres territoires, des touristes, et de voir comment la danse convainc ces personnes-là. Et là, avec Mazel Fretten et Hervé, l'idée, c'est de dire aux gens... peut-être vous ne les connaissez pas, les Mazel Fretten, vous aimez les concerts, vous aimez danser, et là vous allez être entouré de danseurs quand même assez géniaux. ils sont très engagés dans le mouvement. Et tous ces rapprochements entre pop culture et création contemporaine, les enfants et les parents, tout ça, c'est vraiment fait pour qu'on élargisse le plus possible le public et on démocratise l'accès à la danse.
Donc là, on a parlé de l'axe international, on a parlé de ces événements gratuits. Et puis, il y a un axe que moi, j'ai trouvé inclusif. Je pense aux travaux d'Eric Ming Kuyong-Castin, en collaboration avec Alun Marshall et Marine Rellinger. Leur pièce qui est une création mondiale et qui s'intitule Vision, ça sera au 13 mai. Je crois. Je pense aussi à Chiara Bersani avec l'animal. Et puis, quelque part aussi, et puis c'est pas l'actualité qui nous contredira, dans ce monde qui est très adultiste, je pense aussi à la pièce Wasco qui mettra au plateau des enfants. Vous êtes allé les chercher où, ces artistes-là ? Bon, Eric,
Eric, il était là. Ouais, il était là. C'est artiste maison. Chiara Bersani, on la connaît bien, et Benjamin Percher, qui travaille avec nous aussi, en particulier sur le conseil artistique. Bon, c'est des figures qui comptent aujourd'hui. C'est des figures à la fois intellectuelles, aussi par leurs différences et leur militantisme, justement.
Très politique, ouais.
très politique sur l'idée de l'inclusion et qui, en fait, c'est ça qui est beau, c'est que cette question de l'inclusion, elle est totalement incorporée par rapport à ce qu'elle propose. Et ce qui est drôle, on parlait d'histoire tout à l'heure, si on cherche bien dans cette programmation, il y a beaucoup de points d'équilibre et de dialogue entre la création et des histoires différentes. Et pour Chiara Berseni, c'est quand même le lac des cygnes, c'est quand même et un corps comme ça qui se confronte à ce monument de la culture chorégraphique. C'est extrêmement... C'est pas seulement touchant, c'est courageux et c'est puissant. Et puis là aussi, c'est un mouvement extrêmement minimaliste. Et puis à côté, on a Mazel Freyton qui déboule
et qui casse tout.
Et qui casse tout. Donc le corps vulnérable et le corps explosif dialoguent entre eux. Ça, c'est extrêmement important. Et les Wasco, tu veux en parler, Pierre?
Les Wasco, ah, ça c'est nos chouchous un peu. Ouais, c'est vrai que c'est un gros coup de cœur. L'opportunité que donne Lisbeth Grivest à ses enfants d'être des enfants créateurs, la possibilité que des enfants de cet âge-là, entre 6 et 12 ans, puissent entreprendre une œuvre collective et produire une œuvre collective qui est à la fois une œuvre chorégraphique, mais aussi une œuvre plastique. Et en fait, c'est une ode à la liberté, en fait. C'est un des derniers espaces de liberté, peut-être, possible. C'est le plateau, c'est la scène. Et c'est dans le rapport et sous le regard des spectateurs que ça peut se faire.
Ça, juste par rapport à ce spectacle, ce qui est important, c'est de se dire, c'est cette aussi frontière entre amateur et professionnel, qui quelquefois n'est pas, qui peut être beaucoup plus approfondie. Et il peut y avoir une liberté de création là-dedans. Et là, oui, ce sont des enfants qui dansent, mais l'œuvre, elle est d'un très haut niveau. Au niveau conceptuel, au niveau de la réalisation. Ils sont parfaits dans leur réalisation. Et ça, il faut aussi pouvoir amener ces nouveaux critères.
Côté scène nationale, on retrouve Emmanuel Gatt et son obsession magnifique pour la musique. Hein. On n'oublie pas qu'Emmanuel Gatt vient de la musique. Le collectif XY qui nous emmènera avec, toujours dans cette ouverture avec les circassiens et la Fatoumi, mais aussi le très attendu Ballet National de Marseille, la Horde. Il y aura aussi Joseph Nadj, Hervé X et Mazel Freyton, on l'a dit, Kader Atou et Jeanne Ofèche. comment cet axe-là, vous l'avez pensé en fait?
L'axe
Du champ plus national.
Ah, du champ plus national. Ben on l'a pensé d'abord avec l'actualité, c'est-à-dire qu'un programmateur, alors évidemment, il y a de la pensée, etc., il y a une ligne éditoriale,
mais
il y a aussi l'actualité. Ouais. C'est le point de départ quand même. Qui crée, à quel moment, dans quel festival, les orienter pour qu'ils viennent vers nous, etc. Donc ça, c'est un travail à la fois de conviction. Bon, après, Montpellier Danse a une telle réputation, mais quand même, en 6 mois, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est un peu aussi pour, par exemple, Joseph Nadj. Il y a certaines personnes qui se disent, pourquoi Joseph Nadj, c'est un artiste qu'on voit peu aujourd'hui.
C'est un fidèle de Montpellier Danse.
C'est un fidèle de Montpellier Danse. Et moi, je trouve que dans l'idée de la transmission, Joseph, c'est un registre. C'est un registre de cette danse à la fois théâtrale, plastique, performative et scénique. C'est un maître, en fait. Et là, il a fait des sorties de résidence où il y avait les étudiants qui étaient là. Ils ont découvert à la fois une ouverture totale d'esprit, un engagement qu'on voit peu aujourd'hui, un engagement sensible. C'est un passionné, c'est presque au sens romantique de son œuvre. Et je trouve que ces choses-là, il faut qu'il continue de créer, et donc il faut continuer de le montrer, et il faut qu'il transmette. Et d'ailleurs, il transmettra auprès de nos étudiants.
La veille de la première représentation de David Coria au Théâtre de la Mer, à 7, nous assistions aux travaux des étudiants en master. Est-ce que ça aussi, c'est un signal d'ouverture? On entend parler de ce nouveau master qui s'appelle Boost. C'est pas un master, c'est un parcours de formation qui s'appelle Boost. Ouais. Ok. On sait que Ofèche va amener un master cette fois.
Ça
sera un master.
Oui,
ok. Est-ce que ça veut dire que dans les années à suivre, la programmation du festival pourra se nourrir de ces travaux-là?
Ouais. Je commence et
Tu veux parler de Boost et de ta création?
Peut-être d'abord répondre à la question. Bien sûr, l'idée est de pouvoir faire bénéficier aux étudiants de la visibilité du festival. évidemment, il y a tous les ingrédients pour que ce soit un moment de tremplin pour ces jeunes générations qui se lancent dans une carrière professionnelle. Et c'est souvent d'ailleurs très compliqué, ce premier pas de départ quand on se lance dans une carrière professionnelle. Comment est-ce qu'on est vu? Comment est-ce qu'on peut exister et avoir un public à qui s'adresser? Donc évidemment, il va y avoir beaucoup, beaucoup de liens entre les deux. Donc ça va se construire petit à petit, avec aussi cette nouvelle classe de formation, donc Boost, qui est dédié à des profils plus jeunes que les masters, que le master exerce. Donc pour Boost, c'est vraiment un profil 18-25 ans. Et des danseurs autodidactes, vraiment qui viennent de toute esthétique, toute forme de technicité dans la danse. Et voilà, l'idée, c'est de leur donner une année de formation très riche, très intense, pour qu'ils ressortent avec une boîte à outils, plus, que ce soit un accélérateur, un boost, pour ensuite qu'ils puissent voler de leurs propres ailes et se lancer dans une carrière soit d'interprète, soit de chorégraphe. Il y a aussi ces deux aspects qu'on aborde dans la formation. Tandis que le master exerce est vraiment ciblé sur l'écriture chorégraphique, la philosophie de la danse aussi, et la recherche. Donc évidemment, tout ça, c'est comme tu utilises souvent le mot marmite, Dominique, ouais. C'est très juste, on a tout plein d'ingrédients dans notre petite casserole là, et puis on peut faire des super recettes. Je te laisse continuer.
En fait, c'est de montrer la danse dans tous ses états, c'est-à-dire c'est pas la danse que des professionnels au sens ou des maîtres, c'est la danse ou de la recherche, la danse des enfants, la danse des amateurs, la danse de ceux qui pratiquent, la danse du très haut niveau international, la danse de ceux qui sont autour de nous, Zoé Lagnati, Chamblas, etc. Donc, il y a une vraie présence aussi des artistes François Lamargo de la région, et c'est ça, il faut voir, c'est vraiment dans tous ces états. Et c'est vrai que ces étudiants, en fait, bon, on cherche à ouvrir le public aussi, et avec les jeunes, tous les étudiants qui sont ici, il faut les ramener beaucoup plus, et simplement, on se dit, mais on a les ressources. C'est-à-dire, on les a, les jeunes, ils sont là, ils travaillent, ils cherchent, ils sont étudiants, ils sont avec nous toute l'année. Donc, par exemple, l'année prochaine, il y aura en effet une création avec les étudiants au MOCO, qui sera travaillée pendant leur année de formation, une autre avec Jeanne. Donc, en fait, c'est de voir cette ressource-là, sensible, intellectuelle, artistique, comment le public montpelliérain peut se dire, mais c'est incroyable, il y a tout ça autour de nous qui existe. Donc c'est rendre visible déjà des choses, des ressources exceptionnelles qu'on a.
Peut-être rajouter une chose qui est que, en fait, le projet, c'est ça l'histoire du projet. Le projet, c'est quoi? C'est la fusion, c'est la réunion de deux établissements qui étaient un centre de création et un grand festival international. Et on a toujours dit que ce qui est intéressant, ce n'est pas l'empilement, le millefeuille des missions, c'est-à-dire tout à coup, on serait un centre de création, on serait un centre de formation, on serait un centre de médiation, on serait un centre de présentation. Et non, ce n'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est le lien qu'on fait entre ces différentes missions. C'est comment ça circule et comment chacune de ces missions se nourrit les unes des autres. Et donc, évidemment, le festival a vocation à être le réceptacle de ça. Donc, on le voit bien. Comment la présence de ses maîtres, tu parlais de Joseph, parce qu'il permet de rencontrer les étudiants en formation, comment tout un dispositif de circulation entre ces différentes missions, entre ces différentes communautés qui habitent l'agora à l'instant T. Et donc le festival, bien évidemment, a une vocation naturelle à être le réceptacle et à être l'endroit de monstration de toutes ces dynamiques-là.
En fait, je pense que le maître mot, c'est un peu la collaboration et la collégialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos artistes, par exemple amateurs, ils ont montré des œuvres pendant tout le week-end de Kader Atou, mais de Bagoué, Mathilde, Rizzo, etc., Anterzat Kersmaker. Donc on voit bien à quel point c'est poreux, et cette porosité, elle amène une exigence. C'est-à-dire on est toujours auprès des œuvres. L'œuvre est centrale tout le temps, tout le temps. Et en même temps, une générosité, puisqu'on va vers les publics.
Alors, on a un peu parlé de Rizzo. vous pouvez nous dire quelques mots sur l'exposition qui sera ici, pendant le festival?
Je peux, c'est une très belle chose. Il faut venir la voir. C'est vraiment parce qu'on peut la décrire, ce qu'on va faire, mais c'est vraiment une expérience à vivre. C'est en fait un dispositif extrêmement simple de robes, accrochés sur des cintres qui flottent et qui dansent dans l'espace. tout simplement. C'est extrêmement simple, mais il faut se poser. C'est un moment presque méditatif qui est proposé et c'est laissé porter par la poésie insondable de ces deux robes qui flottent et qui dansent dans l'espace.
Wow, c'est vendu, Pierre Martinez.
Et c'est une danse sans corps, donc c'est aussi, il y a une forme de radicalité. Et...
Les corps sont là en creux, dans voilà. Ces robes vides.
En ombre.
Les corps sont là.
Allez, ma dernière question. Est-ce que quand on a autant d'expérience que vous deux, en fait, on a encore le trac à la veille d'un festival? Et puis, avec quel message, ça c'est une question pour vous trois, vous voudriez que les publics repartent?
Ouais. Oui, j'ai le trac. Il y a Sacha Guitry qui disait, il parlait à un artiste qui disait je n'ai pas le trac. Et Guitry a dit c'est pas grave, le trac il viendra avec le talent.
Bonne réponse.
Voilà. Donc non, il faut pas être blasé. Surtout, c'est vrai, l'expérience sert. Mais à partir du moment où on fait un projet créatif. Dans le sens où on remet quand même les cartes en jeu. Et là, cette fusion, moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Oui. Et donc, forcément, c'est des essais, des erreurs, des crash tests, des choses qu'il va falloir réajuster. Et puis, des intuitions où on sent jusqu'à maintenant que les intuitions sont plutôt dans le bon sens. Mais ça se joue dans le présent. Donc oui, le trac. Et la deuxième chose, c'était...
Avec quel message vous voudriez que le public reparte?
Alors, le message pour moi, ça serait le festival Montpellier Danse appartient à tous. Voilà.
Alors, je sais pas si j'ai vraiment le trac. Je suis sous tension. Là, on est trop dans le fer, on est trop dans la fabrique pour laisser du temps au trac. J'ai trop de choses qui me passent dans la tête tout le temps, etc. Je pense que ça, c'est nourri par une chose. Dont je suis absolument certain et dont je pense qu'elle sera perçue par le public, c'est la très grande sincérité avec laquelle on fait les choses tous les quatre depuis qu'on est à rédiger et à penser ce projet tous ensemble. Et je sais aussi à quel point c'est relayé par l'équipe. Cette grande sincérité à présenter ces choses, à être vraiment dans ce dispositif, on va dire, d'ouverture, de partage, ça, je sais que ça sera pris, donc je suis pas réellement inquiet. Après, je rejoins complètement Dominique sur le message, évidemment, c'est ce lieu, cet espace, la danse vous appartient.
Moi, j'ai complètement le trac. Alors là, parce que moi, à l'inverse de Dominique et Pierre, c'est ma première fois. Et en plus, je suis sur scène. Et en plus, il y a plein d'autres choses.
Maintenant, on sait que c'est le signe que vous avez beaucoup de talent.
C'est rassurant. Non, évidemment, on a le trac, mais parce que c'est un super bon trac. Enfin, c'est plus, comme je disais le mot tout à l'heure, excitation, c'est vraiment ça. C'est comme quand on prépare une fête, on sait qu'on va avoir plein d'amis, plein d'invités, plein de gens qu'on va rencontrer aussi. C'est un peu ça, en fait. C'est les avants de la fête. Un festival, ouais, la racine du mot festival vient du mot fête. Et puis après, voilà, être entouré de Pierre et Dominique, il n'y a pas mieux. Enfin, je ne peux pas me sentir plus sereine qu'avec eux, quoi, complètement. Donc... C'est un trac, mais c'est une joie aussi. Et je sais pas qu'est-ce que je pourrais...
Et en tant que programmatrice, avec quel message vous voudriez que le public reparte?
Quand on regarde la programmation, il y a quand même un maître mot à peu près dans chacune des pièces qui est de vouloir faire corps les uns les autres. Je pense que c'est un message un peu inconscient chez tous les chorégraphes, toutes et tous, on a envie de rappeler ça, en fait. Rappeler ça. Faire corps les uns les autres pour avancer ensemble, je pense. Ne pas oublier que c'est le cœur, je pense, pour aller vers un mieux.
Merci à vous trois et toute l'équipe de Divergence FM. Vous souhaite un excellent festival.
Merci. Merci.